Oui, alors nous allons maintenant entendre Raphaël Picon, donc professeur, doyen, rédacteur en chef.
Dans un ouvrage collectif que j'ai dirigé il y a 2 ans, ouvrage intitulé « La mort, le deuil, la promesse », l'écrivain français Sylvie Germain a apporté une contribution sur le thème « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Et elle écrit notamment ceci « La grande question n'est pas celle de savoir s'il y a une vie après la mort, mais si nous avons été, sommes et serons vivants avant la mort. L'urgence est là. Maintenant, à chaque instant, le souci de vivre se forge à chaque aujourd'hui. La vie ne doit pas être ajournée, repoussée dans quelque au-delà de consolation. » Et l'écrivain conclut son article par ces mots : il y a une vie possible avant la mort. La vie d'après, c'est sur cette terre, au fil des jours, qu'elle s'engendre. En pensant à tant d'hommes et à tant de femmes privés de la possibilité d'espérer, incapables de s'épanouir dans l'existence, en manque cruel de reconnaissance, nous sommes bien en droit, en effet, de nous demander s'il y a pour eux une vie avant la mort. Le théologien catholique Maurice Zindel partage cette question dans son livre « À l'écoute du silence ». Il écrit ceci. La plupart des vies, malheureusement, sont des cadavres d'humanité. La plupart des hommes meurent avant de vivre. Et c'est cela précisément la vraie mort. Celle qui se situe avant la mort, dans cette identification passive avec la biologie. Nous existons très rarement. Le plus souvent, nous sommes en attente, en incapacité d'existence. Nous n'existons pas. C'est précisément ce souci de penser la vie d'avant la mort qui a invité un certain nombre de théologiens à repenser les catégories théologiques traditionnellement réservées à l'au-delà et de repenser ces notions en les inscrivant dans une réflexion sur l'ici et le maintenant de la vie, de l'existence. C'est ce souci de soutenir cette vie d'avant la mort qui nous permet notamment, qui nous invite notamment à développer une conception éthique et mobilisatrice de la notion de résurrection. Le christianisme qui naît à Pâques, le christianisme qui naît en proclamant sa foi en une vie plus forte que la mort, peut être pensé comme un christianisme de combat au service d'une vie plus forte que tout, plus forte que tout ce qui la vide de sens, plus forte que tout ce qui la brise, plus forte que tout ce qui l'aliène. Et il faudrait alors imaginer le Dieu de la vie éternelle comme un Dieu en lutte permanente pour rendre la vie réellement possible, pour rendre le monde plus juste, plus harmonieux, pour rendre nos existences plus épanouies. La foi en la résurrection, dans cette perspective, n'est jamais une foi acquise, elle ne va pas de soi. Elle implique que la résurrection soit crédible. Cette foi se gagne sur le front d'une lutte, d'un effort, d'une créativité au service de la vie présente. C'est aussi pour soutenir, pour défendre cette vie d'avant la mort que certains théologiens ont aussi développé une conception dynamique et créative du salut. Dans cette perspective, l'action salvatrice de Dieu se confond avec son action dans le monde. Cette action entend promouvoir un monde constamment transformé et ouvert vers l'avenir. On relèvera d'ailleurs que dans ce sens, l'image du royaume de Dieu ne devrait pas nourrir la promesse d'un monde parfait, mais bien plutôt stimuler l'action transformatrice de chacune et de chacun. L'image du royaume de Dieu relève ainsi d'une dimension utopique, dynamique. Elle désigne un non-lieu qui doit rester ainsi pour précisément nous motiver toujours plus. Et dans ce sens, on pourrait dire que l'accomplissement du royaume serait la contradiction même de ce que vise le salut, à savoir un monde fini, sans perspective autre que son propre maintien en l'état. Mais il me semble aussi que ce souci de penser la vie d'avant la mort n'exclut pas forcément le souci de pouvoir penser aussi la vie d'après la mort. Et nous pouvons, par exemple, penser cette notion de vie éternelle en l'arrimant à la vie présente, en développant l'idée d'une vie éternelle comme d'une vie en Dieu, une vie accueillie et intégrée en Dieu. Croire en la vie éternelle serait alors une manière de croire que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons été, ne se perd jamais en Dieu. Dieu apparaît dans cette perspective comme la grande mémoire de notre humanité, comme une résistance heureuse, nécessaire à l'impermanence des choses, à l'insignifiance, à l'oubli. Et on pourrait aussi soutenir, et certains théologiens l'ont fait, comme John Cobb, par exemple, et les théologiens dits du process, on pourrait soutenir aussi que ce qui est intégré en Dieu le transforme et fait que Dieu n'est plus tout à fait le même après nous avoir connus. Dieu n'est pas indépendant et impassible, ce qu'il reçoit de nous le transforme. Si l'homme vit éternellement en Dieu, en étant intégré et mémorisé en lui, eh bien on pourrait dire de Dieu qu'il vit aussi éternellement de ce qu'il reçoit de l'humanité. L'éternité, dans cette perspective, serait donc cette part de nous-mêmes qui se trouve intégrée en Dieu, cette part de nous qui subsiste dans un au-delà et une éternité qui nous saisit plus que nous ne la saisissons. Et c'est là que se reconstruit un lien entre vie éternelle et vie présente. Car la qualité de cette vie-ci, la qualité de nos vies présentes, détermine la qualité de ce qui affecte Dieu. Plus nos vies sont heureuses, épanouies et créatives, plus elles affectent Dieu de manière, elle aussi, positive. Ce que nous sommes et faisons de nos vies n'est pas indifférent pour Dieu. Croire que notre vie présente affecte Dieu et se trouve gardée éternellement en lui nous mobilise, nous engage pour rendre cette vie présente plus harmonieuse et heureuse. Mais ce Dieu de la mémoire n'est-il pas quelque peu terrifiant? On se souvient de Nietzsche qui fondait notamment son athéisme sur l'indécence d'un Dieu qui se rappelle tout, qui conserve tout, qui sait tout, qui voit tout, qui se souvient de tout. Devant ce Dieu, peut-on en effet se tenir sans honte et être autre chose que coupable? Pour retrouver le Dieu que raconte le Christ, celui de la créativité, le Dieu de l'amour gratuit, le Dieu du renouvellement, il nous faudrait aussi croire en un Dieu de l'oubli. Car un Dieu capable d'oubli serait le porteur d'une mémoire sélective et non d'une mémoire mécanique. Une mémoire qui garderait de nous et du monde, non pas le tout, mais juste le meilleur. Un Dieu de toutes nos amours, de toutes nos grâces. Oui, j'aimerais croire, et peut-être aimerions-nous croire, que ce sont précisément toutes nos amours, toutes nos grâces que Dieu aime et qu'il garde en lui éternellement. Je vous remercie. Oui.